Bonsoir à tous, bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Hors Piste, c'est d'abord une rencontre avec cette semaine une femme qui a choisi de toujours dire haut et fort ce qu'elle pense. Ça lui a valu de faire une belle carrière politique jusqu'à devenir la première garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy. Ça lui a aussi valu de se faire bon nombre d'ennemis, ce qui ne l'a semble-t-il jamais vraiment empêché de dormir. Mais au-delà des apparences, des polémiques et au-delà du bruit, qui est vraiment Rachida Dati? Elle a accepté de faire un peu de hors-piste avec nous ce soir et elle rigole déjà. Bonsoir Rachida Dati.
Bonsoir.
Thomas Soto sur France Inter.
Le président de la République a nommé, sur la proposition du Premier ministre, Madame Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la Justice.
J'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe.
Pas très septième.
Que je vivais l'étrange drame d'être une femme.
Moi, j'écoutais ça quand j'étais adolescente, je trouvais ça génial. Mais c'était totalement transgressif. Hein. J'étais quand même à l'Institut Le Devoir.
Ah oui. DHLM de Chalon-sur-Saône à la place Vendôme, sa vie est un roman. Entre Rastignac, Cosette et Cendrillon. Certains la disent manipulatrice et ambitieuse, d'autres sincère et engagée.
Elle est un petit mouton qui ne se comporte pas comme les autres moutons et qui choisit son propre chemin. Et donc, le mouton solitaire, dans un troupeau, s'inquiète toujours.
C'était une personne très très bien au début. Quand elle mettait des pantalons en paille, c'était quelqu'un de bien. Dès qu'elle a mis des trucs Chanel, elle a changé.
J'ai le droit de porter les collants que je veux, et les chaussures que je veux, je me souviens, c'était des bottes.
On supporte pas qu'une arabe pose en Dior au parc Hayat Vendôme, mais qu'en plus elle sort du ministère de la Justice parce que c'est elle la ministre. Donc ça fait vraiment beaucoup.
Au moment où j'ai décidé d'être candidat à la présidentielle, c'est poser la question de qui serait mon porte-parole. C'était un sujet très important. Et Cécilia m'a dit, il n'y en a qu'une seule, il faut que ce soit Rachida.
Ce texte apporte des outils adaptés à la récidive des majeurs, mais aussi à celle des mineurs. Les peines minimales, c'est plus de crédibilité pour la prévention.
Elle cristallise vraiment les mécontentements en se comportant comme une hussarde mal élevée.
Bonjour Rachida Dati, Élise Lucet, France 2. Vous voulez pas nous parler? Bonjour, vous êtes sous le coup d'une enquête parlementaire et soupçonnée de conflit d'intérêts avec GDF Suez. Qu'est-ce que vous avez à
répondre? Des accusations à la con, vraiment? Des accusations à la con?
Répondez-nous, on veut absolument avoir une réponse.
Ils disent un jour devant l'ascenseur, je lui dis, en parlant de Brice Hortefeux, alors le facho, ça va? Il vous répond, ça va, intrigante. Et là, vous vous retournez contre Brice Hortefeux et vous lui mettez, je cite, un coup de poing dans la gueule et il se mange le miroir. C'est la vérité?
Moi, j'ai jamais laissé faire. Jamais.
Elle fait partie des personnes qui aiment qu'on parle d'elle. C'est une évidence. Elle fait tout pour qu'on parle d'elle.
Peu importe ce qu'ils disent en face, je l'avoue. Je suis amoureux de Rachida. Ouais, la garde des Sceaux.
Rachida Dati.
Je l'avoue, elle me plaît trop.
Rachida Dati.
C'est la plus belle des ministres. Chérie, ce track est pour toi. Ouais, je suis amoureux de Rachida. Ouais, la garde des Sceaux.
Rachida Dati.
Je l'avoue, elle me plaît trop.
Rachida Dati.
C'est la plus belle des ministres. Peu importe si je me fiche à... Ah, je suis amoureux de Rachida.
Bienvenue dans Hors Piste, Rachida Dati. Je suis très heureux de vous recevoir.
Moi aussi, je suis très heureuse d'être là.
Dans l'image que j'ai de vous, vous faites partie de ces politiques dont on se dit, tiens, elle, c'est un animal politique, une personnalité qui aime le combat, qui aime la joute. Vous avez aussi la réputation d'aimer maîtriser les situations. Est-ce que l'exercice qui consiste pour vous à venir ce soir à ce micro en acceptant de vous livrer dans un exercice différent de l'interview politique à laquelle vous êtes rodée est quelque chose de facile?
C'est pas une question de facilité, c'est une question de confiance et puis, j'allais dire presque de confidence. Voilà, ouais. Moi, vous savez que je vous apprécie comme journaliste, donc j'ai accepté le principe de cette interview.
On a entendu à l'instant votre portrait sonore et forcément subjectif. À quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de vous, que diriez-vous pour vous présenter? C'est qui Rachida Dati?
Oui, on pourrait dire que je suis quelqu'un de battante ou de batailleur ou... Vous disiez vous-même d'être dans la confrontation. Moi, je pense que on est le fruit de sa vie, enfin, de son expérience, de son passé. Et vous pouvez avoir analysé votre passé, vous pouvez avoir eu des séances de tout ce que vous voulez de psychanalyse ou de psychothérapie, ce qui n'a pas été mon cas, mais peut-être ça aurait pu être nécessaire, j'en sais rien. Mais je suis le fruit aussi de... d'un d'épreuves, de moments d'intense bonheur, de beaucoup de chance, d'une foi chevillée au corps dans toutes les situations, parce que c'est vrai que je suis issue d'une condition sociale très défavorisée. Vous savez, Monsieur Soto, pendant très longtemps, même en politique ou dans certains milieux, on avait honte de dire qu'on venait d'un milieu pauvre. Maintenant, c'est devenu presque le premier argument qu'on donne. Et c'est pour ça que moi, ça n'a jamais été pour moi ni un atout ni un argument. Une chose est sûre, c'est ma force intérieure pour mener les combats que je mène et les combats publics que je mène. Et donc, c'est vrai, quand vous êtes issue d'un milieu très défavorisé, forcément, tout est combat. Tout est combat. Vivre est un combat. Résister à la violence, résister à la brutalité, résister à la domination. Et de dire, moi, je crois en la République et je vais y arriver. Alors, après, vous, tout ça...
C'est ça votre moteur. Je crois à la République et je vais y arriver.
Et donc, vous êtes pétri de tout ça. Donc, même quand vous êtes dans... Vous êtes soi-disant arrivé dans presque une zone de confort, vous ne l'êtes jamais. Parce que c'est jamais terminé.
Ce qui est sûr, c'est qu'il existe un style d'Ati sur la forme comme sur le fond d'ailleurs. Et on va commencer par la forme. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface, disait Victor Hugo. Quand avec l'équipe de Hors-Piste, on a fait des recherches d'archives sur vous, je vais vous dire, j'ai été stupéfait de voir à quel point, quand vous êtes arrivé au ministère de la Justice, place Vendôme, on vous ramenait systématiquement, on vous réduisait à ces histoires de talons, de tenues, de photos dans Paris Match. Quel souvenir vous gardez avec le recul de cette période-là?
Moi, j'entendais tout à l'heure l'annonce sur le perron de l'Élysée de ma nomination. Je me souviens de cet instant et c'est vrai que à chaque fois que j'entends cette nomination, évidemment, ça fait écho chez moi à plusieurs dimensions. Une dimension très intime, qui te dire, j'y suis arrivée. Une autre dimension plus collective. C'est que j'ai pensé à tous ceux qui en ont rêvé en se disant, est-ce qu'un jour, moi, je peux peut-être avoir un bac, changer de milieu, changer de conditions sociales, avoir ne serait-ce qu'accès à l'excellence de l'école, à la culture, aux soins. Vous savez, je pensais à ça hier avant de venir à votre émission. Je me disais finalement quels ont été les combats, y compris je pensais à maman, parce que je parlais avec une amie sur maman qui a été 18 fois enceinte à terme et qui n'avait jamais vu un gynécologue à l'exception d'accouchement. Et je disais, c'est vrai que à l'époque, même pour prendre un rendez-vous chez le médecin, c'était compliqué. C'est-à-dire que de dire, non mais pas de place pour vous, non mais dans 6 mois, où on a un assistant ou un interne. C'est-à-dire que tout était combat tout le temps. Et je me disais, un jour... Ça ne sera plus un combat pour moi, mais pour tant de personnes.
Mais alors, cette histoire de... Parce que vous aviez posé à l'époque, il y a des photos que certains vous ont reprochées. C'était une façon de dire, je suis comme je suis et vous ferez avec la personne que je suis.
Il y a eu une photo qu'on m'a reprochée, qu'on me reproche aujourd'hui encore. C'est-à-dire que on n'a jamais fait le reproche aux autres ministres femmes d'être élégantes, de s'habiller chez les grands couturiers, d'avoir les bijoux qu'elles pouvaient avoir. À la limite, on trouvait que c'était normal. Et pour moi, on considérait que c'était pas normal. Moi, je me souviens
vous en avez
d'un journaliste.
Ou pas
non, j'en ai pas souffert. Je vais vous dire ce qui m'a gênée. Je me disais, on en est encore là. C'est-à-dire que j'avais la compétence. Regardez dans tout ce que vous avez repris, dans les témoignages et ce qui est dit. Est-ce qu'une seule fois quelqu'un a dit « Oh, elle a présenté un texte, grosse erreur. » Ah, elle a mené des combats, et j'en ai mené des textes, hein, j'en ai porté, j'ai vraiment réformé la justice.
On vous a entendu en défendre un d'ailleurs.
Exactement, c'était effectivement le texte sur les peines planchers. J'ai pas fait de faute de fond, ni technique, ni de compétences, ni dans mes approches politiques.
Et des fautes
politiques.
De forme alors, oui?
Non, comme on pouvait pas m'attaquer sur le fond, finalement on s'est attaqué à la forme. Et je vais vous dire, ce qui est plus grave, c'est qu'on s'attaque à la forme en disant, c'est pas pour elle. Finalement, être bien habillée, c'est pas pour elle. C'est pour ça qu'un jour j'avais dit à une journaliste du journal Elle, je l'ai écrit, qui me dit « Vous n'avez pas le sentiment, en étant bien habillée, de trahir votre condition ?» J'ai dit « Est-ce que vous allez me poser la question de savoir est-ce que je trahis ma condition en étant propre ? Est-ce que le fait de me laver, je trahis ma condition ?» J'avais souvent l'impression qu'on nous réduisait finalement à affreux, sales et méchants. Et je me disais « Mais est-ce qu'un jour on va sortir de là ?» Et c'est pour ça que j'ai jamais lâché.
Donc il y avait une part de combat politique là-dedans aussi.
Mais bien sûr. Mais qui me le reprochait ? C'est ni les habitants du 7e arrondissement qui m'ont vraiment confié leur confiance très largement et depuis longtemps, ni de mes amis d'enfance qui sont encore dans la cité de Chalon-sur-Saône, que ce soit la cité du Stade ou la cité du Bout du Lac, et que je vois encore et qui m'ont jamais reproché, bien au contraire.
Dans votre vie, et on va pas passer toute l'émission là-dessus, mais ça a compté aussi, il y a la naissance de votre fille Zora en 2009. Avant même qu'elle naisse d'ailleurs, on a eu droit à une séquence, là encore invraisemblable, surtout quand on réécoute ça avec quelques années de recul, durant laquelle les médias, tous les médias, se sont mis à chercher le père de votre enfant.
Puisqu'on parle de grossesse, la confirmation de celle de Rachida Dati a passionné l'ensemble de la presse européenne ce matin, notamment espagnole. Il faut dire que José María Aznar, l'ancien chef du gouvernement, a démenti une rumeur d'un journal marocain qui lui attribuait la paternité.
De Nicolas Sarkozy à José María Aznar, alors Premier ministre espagnol, on a tout entendu, tout le monde y est passé, on a une liste de pères potentiels hallucinante. Qu'est-ce que vous vous disiez, vous, à ce moment-là? Comment on vit ça?
Je disais que ceux qui sont là à proférer, à disant la liberté de la femme, les femmes sont libres, elles disposent de leur corps, elles disposent de leur vie sentimentale et affective. J'avais jamais, moi, à ce jour, j'ai jamais exposé ma vie intime et affective. Et ceux qui, soi-disant, défendaient cette liberté de la femme, leur reprochaient. Et ils considéraient que c'était anormal, en plus, que je ne dise pas. Mais les propos et ce qu'on vient d'entendre, ma fille a 12 ans et demi, vous croyez pas que c'est très gênant ce qui vient d'être entendu? C'était très gentil. Et j'ai essayé de la protéger de ça. Elle a vécu toute sa scolarité du primaire à changement d'établissement tous les ans, avec une histoire de harcèlement qu'elle a vécu, avec le fils... elle a été harcelée par un petit garçon qui est le fils d'une personnalité. Ça, c'est fini à l'hôpital Necker. Est-ce que c'est ça la liberté de la femme? Est-ce que c'est ça...
Vous pensez qu'on aurait cherché à savoir qui était la mère de votre enfant si vous aviez été un homme?
Jamais, ouais. Mais jamais. On aurait trouvé même ça formidable.
Et c'est vrai que l'État a mis ses services de renseignement en action pour essayer de savoir qui était le père de votre fille ou pas?
Bien sûr,
c'est vrai, ça.
Et ça a été avéré.
Ouais.
Puisque j'avais préparé une assignation et j'avais même menacé de déposer plainte.
Voilà. Et vous l'avez
pas fait. Mes avocats l'avaient proposé et puis comme les personnes ont été sanctionnées pour certains, notamment en leur retirant des attributions et en étant retiré de la vie politique. Donc, j'ai laissé tomber, parce que je ne voulais gêner personne.
J'ai l'impression que ça reste à vivre pour vous, ça.
Bien sûr, mais ma petite fille, qui est ce que j'ai de pas de plus cher dans ma vie, qui est toute ma vie. Moi, je ne supporte pas qu'elle puisse souffrir de ça. Moi, j'ai eu cet enfant, c'était... D'ailleurs, c'est pas un hasard si je l'ai appelée comme maman. Maman était pour moi...
Zora.
La femme la plus pour laquelle j'avais la plus grande admiration, le plus grand respect, et qu'on s'attaque à cette petite fille, je me suis dit, moi j'ai échappé à de la violence, à la brutalité, à des attaques, finalement j'allais dire à des conditions matérielles épouvantables. Je travaille à plein temps depuis que j'ai 14 ans, j'ai eu cette petite fille dans d'autres conditions. Je me dis, mais pourquoi on veut la détruire? Donc je l'ai préservé de ça, je l'ai protégé de ça, je l'ai jamais exposé, et j'ai trouvé mais indigne. Moi je me souviens des éditorialistes, ceux qui sont de gauche, hein, puis ceux qui évidemment ils sont pour le droit des femmes, mais très très loin, mais pas pour des gens comme moi. Voilà. Et ces gens-là, ce sont des gens que nous fréquentons tous les jours, que vous recevez également sur vos plateaux. Donc j'ai trouvé ça très indigne, et j'ai pas voulu céder. Et la limite était effectivement la santé, notamment la santé mentale de ma fille.
Il y a une icône du féminisme qui vous aimait beaucoup, c'est Simone Veil. Écoutez ce qu'elle disait de vous, on est en 2007, Rachida.
Simone Veil, dans quelles circonstances et quel était le contexte dans lequel vous avez rencontré Rachida Dati?
Je cherchais des jeunes femmes pour faire la médiation, la politique de la ville, et notamment en ce qui concerne le problème du voile. Et j'ai demandé à Rachida Dati, dont j'avais fait la connaissance, d'être médiatrice, voir si ce qu'on pouvait faire pour éviter des conflits.
Vous lui avez, paraît-il, offert votre robe de juge, c'était une façon de...
Je ne l'avais jamais mise. Vous savez, comme j'avais toujours été à la chancellerie, j'avais prêté serment, puisqu'il faut prêter serment au moment où on devient magistrat, mais je ne l'ai jamais portée, puisque je n'ai jamais été dans une juridiction. Alors, effectivement, j'étais très contente de lui donner ma robe, mais j'ai deux fils qui sont avocats, et l'un et l'autre ont dit, tout de même, tu aurais pu nous la donner, c'est la même robe, tu aurais pu nous la donner à nous. Elle a promis de leur rendre.
Ça vous touche, ces mots de Simone Veil?
Moi,
êtes devenue magistrate, vous avez prêté serment dans sa robe.
Hein. Oui. Ouais. J'avais un lien très particulier avec elle, et ce qui nous a rapprochés, c'est au moment où j'ai perdu maman. Parce que quand j'ai perdu maman, j'ai cru que j'ai été mais dévastée. Et je pensais que j'allais pas... me relever de ce deuil et de ce manque. Et elle m'a été d'un grand secours. Elle m'a parlé de sa maman. Elle m'a parlé aussi de sa séparation avec sa maman. Et dans des conditions autrement plus douloureuses et difficiles. Et on a passé des heures à parler de ça, et ça a été un lien entre nous indéfectible.
Vous êtes quel genre de féministe, vous ? Comment vous vous définiriez par rapport au féminisme ?
Moi, je considère que les droits acquis pour les femmes ne sont jamais définitivement acquis. Même les acquis demeurent des combats. Moi, j'ai toujours aimé travailler avec des femmes. J'ai été entourée de femmes, élevée par des femmes exceptionnelles. Mes sœurs, j'ai 8 sœurs, auxquelles je suis infiniment liée. On est majoritairement des femmes dans la famille en général, puisque nous sommes 12 enfants. Mes tantes, ma tante ou mon oncle, on est 10 enfants, 12 enfants. Donc on a un fonctionnement très clanique, mais aussi très, j'allais dire, féminin dans toutes ses dimensions. On est toutes très différentes. Moi, je considère que le combat des femmes, c'est un combat collectif. C'est un combat collectif. Et j'aime mener les combats avec les femmes. Moi, je vois par exemple ma campagne municipale, beaucoup de femmes.
Ça change quoi pour vous de travailler ? C'est vrai qu'il y en a beaucoup dans votre équipe, oui. Il y en a toujours eu beaucoup. Ça change quoi pour vous de travailler avec des femmes ?
Moi, je suis même à la chancellerie.
C'est une question de confiance ou c'est une question
Mais
de...
Moi, j'ai toujours considéré que... Bon, vous pouvez avoir des trahisons, j'en ai eu de certaines femmes. Mais globalement, je n'ai jamais été trahie par une femme. Et majoritairement, j'ai toujours trouvé du réconfort, de la confiance. Quand j'avais des hésitations, quand j'avais aussi des chagrins, j'ai toujours trouvé réparation auprès de femmes, et de femmes très différentes.
On va marquer une première pause musicale, Rachida Dati. Le temps d'écouter Battlefield, c'est le premier extrait du nouvel album de Jean-Louis Murat. Hors Piste revient.
Quand l'amour s'en vient comme un torrent, en mon cœur prisonnier du courant, je voudrais chanter l'amour trouvé. Ouh, 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 oui. Que fais-tu, amour, sur le palier? Qu'en sais-tu, amour? Je suis trompé. Je voudrais chanter. Fini Battlefield, ouhou. Fini Battlefield, ouhou. Fini Battlefield, revoilà la vie, ouhou, oui. Jouir d'un bonheur entre tes bras, sentir ton odeur autour de moi, au miroir du cœur, amour en mon cœur.
Battlefield, le champ de bataille de Jean-Louis Murat, premier single extrait de son nouvel album dont la sortie est prévue le 22 octobre.
Hors piste, Thomas Soto.
Si, est dans Hors piste, quand est-ce que vous avez fait du hors piste pour la dernière fois, vous ?
Moi, je suis toujours sur la piste et on essaye toujours de me mettre hors piste.
Oui ?
Oui.
Moi, c'est pas toujours... vous qui aimez bien être un peu sur le côté aussi ?
Ah non, justement, là, ça vous parlait de l'école.
Ah, je sais pas. Ah non.
Non, sinon.
Libre interprétation.
Non, mais est-ce que les gens disent, oh là là, mais vous n'êtes pas conventionnel, vous êtes transgressif. Non, moi je suis vraiment conventionnel, c'est ce qui dérange. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que vous fassiez partie des leurs.
Mmh. Voilà. Vous n'avez pas la carte ? On ne vous donne pas la carte, comme on dit ?
Non, moi je pense qu'il y a deux cas de figure. Soit on se dit, mais ce n'est pas normal que quelqu'un comme elle puisse avoir accédé à notre monde. Et puis d'autres en se disant, c'est suspect.
Il y a quelqu'un qui vous a ouvert les portes de ce monde à sa manière, c'est Nicolas Sarkozy.
Ah, oui.
On va l'écouter, qui parle de vous, on est en 2007, vous venez d'être nommé garde des Sceaux.
C'est l'occasion pour moi de dire à la garde des Sceaux ma confiance
mon amitié et son obligation de réussite, la présence de Rachida Place Vendôme, c'est un message adressé à tous les enfants de France, que pour chacun, par son mérite, par son effort, par son engagement, ça devient possible.
Elle vous convient cette image de message envoyé à tous les enfants de France ?
La politique est surtout un poste ministériel et de ce qu'on croit un poste ministériel, enfin le ministère de la Justice, qui est un poste sensible, exposé. Donc ça nécessite une compétence et une technicité, pour ne pas dire une expertise. Mais la politique, c'est effectivement cette compétence, cette expertise, mais c'est aussi le symbole. Et ce symbole-là, il est important. Et moi, je me souviens pendant toute la campagne. Mais c'est vrai, moi, je me souviens que quand j'ai été nommée porte-parole, certains, y compris Claude Guéant, ils disaient oh là là, mais ça va faire fuir les électeurs. Ça ne les a jamais autant rassemblés, notamment les électeurs de droite, parce que justement, moi, je considère que la France, la République, la reconnaissance du mérite. C'est aussi ce que j'incarne. Et donc, ça me dépassait, ma nomination me dépassait, et cette nomination m'obligeait. C'est pour ça que j'ai travaillé de manière acharnée, j'ai porté des textes de manière acharnée, j'ai tenu mon rang de manière acharnée, même si certains essayaient de me réduire à du rouge à lèvres ou des talons aiguilles. Et moi, à l'époque, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements féministes pour me soutenir sur ces attaques sur ma personne, sur ma féminité, voire ma sensibilité. Mais franchement, le combat était bien plus important que ces petites critiques très basses, finalement.
Même ceux qui ne vous aiment pas le reconnaissent. Hein, vous n'avez jamais cherché à jouer, entre guillemets, à l'arabe de service. Pour autant, est-ce que vous avez le sentiment qu'il existe aujourd'hui encore en France un plafond de verre quand on fait de la politique et qu'on s'appelle Rachida ?
Bien sûr, moi, si vous voulez, la force et que j'ai eue, c'est finalement, j'étais magistrat quand j'intègre le cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. J'avais une expérience déjà de la magistrature, j'avais une expérience de contentieux compliqué, difficile. Donc, il m'a pas prise, il m'a pas recrutée parce que j'étais ou d'origine arabe ou parce que j'avais vécu des moments difficiles. C'est parce que j'étais magistrat. Mais j'avais une sensibilité, une approche du droit. Vous savez, quand vous êtes magistrat, vous avez un pouvoir d'appréciation. J'avais une vision, une analyse de certains faits, de certaines situations, qui a beaucoup plu à Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Et rappelez-vous...
Mais ce qu'on retient, ce qui retient, et quand on l'entend là, c'est le message, c'est le symbole.
Ça fait partie du symbole, parce que j'étais une conseillère importante auprès de lui, je suis devenue sa porte-parole. C'était quand même la première fois dans la Ve République que quelqu'un comme moi puisse accéder à ces fonctions si importantes. Et ensuite, je me souviens d'un déplacement que j'avais fait chez Christian Estrosi. J'étais avec à Nice avec Christian Estrosi et Dominique Estrosi Sassone. Et je me souviens, il y avait une réunion publique, il y avait, je sais plus, 400 ou 500 personnes. Il y a une jeune femme, première question, elle dit, en tous les cas, depuis que vous êtes ministre, moi j'ai plus honte de dire que je m'appelle Rachida. Et elle dit, c'est vrai qu'avant, sur les CV, on avait un sujet. Ben, ça montre aussi ce qu'est la France dans sa réalité, sa profondeur. Voilà.
Vous aimez beaucoup Zola, notamment au Bonheur des Dames.
Oui.
vous dites que vous vous y retrouvez un peu dans tout ça. Est-ce que finalement ça...
Non, vous savez pourquoi ? Parce que les gens vont y voir une connotation Zola avec la description du paysage ouvrier ou autre. Non, parce qu'au Bonheur des Dames, c'est un roman très particulier. C'est parce qu'effectivement, on est dans un magasin de tissus. Et à Chalon-sur-Saône, il y avait un magasin de tissus qui s'appelait Au Bonheur des Dames. Et c'était le bonheur de maman d'y aller à chaque fois parce que maman elle cousait. Donc elle nous faisait tous nos vêtements. Elle faisait les draps, les rideaux, les coussins, nos vêtements, les vêtements de mon père. Et on allait dans ce magasin acheter les tissus. C'est pour ça que je ramenais toujours ce roman, effectivement, cette anecdote.
Vous parlez de Chalon. Quand vous y retournez à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, que vous voyez aujourd'hui les jeunes pour qui la vie n'est pas simple dans ces quartiers où vous avez grandi, qu'est-ce que vous vous dites, Rachida Dati ?
Oui, la vie n'est pas simple, mais c'est vrai que c'est encore compliqué dans certains endroits. Mais j'essaye. Alors, oui, juste avant de rentrer dans votre studio, j'ai appelé... un responsable d'insertion pour quelqu'un qui était en difficulté. Je peux, effectivement, je vois par exemple avec Philippe Bougeon, qui est maire du 15e arrondissement, la semaine dernière, il nous a aidé à trouver un logement pour une femme qui était victime de violence, qui ne voulait pas le dénoncer parce qu'elle vivait sous le même toit.
Vous n'avez pas besoin d'être né à Chalon-sur-Saône, c'est votre boulot de politique, d'élu.
Non, je vais vous dire, mais quand ces femmes viennent vous voir, c'est des femmes qui viennent vous voir en se disant peut-être qu'elles peuvent mieux nous comprendre que d'autres. Vous savez, regardez sur les violences conjugales, le gouvernement auquel j'ai appartenu, et nous n'avons jamais autant fait. C'est pas pour dire les autres sont des nuls et nous on est les meilleurs. Pas du tout. Le problème est trop grave pour pouvoir faire un concours. Je veux pas être vulgaire, mais c'est pas un concours de virilité. Bien au contraire, c'est de dire ce sont des sujets majeurs et qui minent, qui gangrènent certains territoires. Et donc, je sais écouter, je sais voir, je vais aller dans une assemblée, je sais qu'il y a une difficulté. Et d'autres jeunes qui viennent me voir. Moi, je me souviens, il y avait des détenus qui m'écrivaient quand j'étais garde des Sceaux en disant « On est fiers que vous soyez ministre des détenus », mais en disant « Mais nous, il ne nous manque pas grand-chose pour qu'on se remette debout ». C'est pour ça que, par exemple, moi j'ai des débats dans ma famille politique. Moi, je suis favorable à l'aménagement des peines. Évidemment, les courtes peines, ça ne concerne pas la criminalité organisée, les terroristes ou les criminels en série. Moi, je suis d'accord que, sous condition, on puisse donner une chance à des gens qui parfois commettent des erreurs, et ça peut être une erreur qui peut être définitive et fatale. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui m'imprègne au quotidien. C'est pour ça que je fais de la politique.
Donner une chance, il y a beaucoup de personnes en France qui ont l'impression qu'on ne leur donne pas cette chance. Je voudrais qu'on écoute ce que disait Christiane Taubira cette semaine à propos des jeunes en France.
C'est un pays où on humilie. On a humilié un gamin il y a quelques jours. C'est-à-dire qu'on l'a empêché de manger parce que sa maman n'avait pas payé la cantine. L'enfant n'a pas payé ça. Heureusement, la défenseur des droits s'est autosaisie. C'est un pays où on humilie tranquillement. On prive et on humilie. Il y a quelques mois ou un an, on a humilié des adolescents en les mettant à genoux en public. On humilie dans ce pays et on trouve ça normal. Le pays reste calme alors qu'on écrase la jeunesse de ce pays.
On humilie, on écrase la jeunesse de ce pays. Je ne vous demande pas une réaction de politique, Rachida Dati. Ce n'est pas la petite phrase de Rachida Dati qui va répondre à Christiane Taubira, qui répondra après ça, pardon, mais on s'en fout. Ce qui m'intéresse, c'est votre regard sur la société d'aujourd'hui. La France est-elle aujourd'hui un pays où on humilie, un pays brutal, notamment avec ses jeunes?
Moi, je considère que la France, et la crise sanitaire l'a révélée et finalement l'a aggravée. Ce sont les inégalités. Vous savez, quand on dit « on va te donner ta chance », mais faut savoir
c'est faux.
Vous savez, quand il y a eu la crise sanitaire, et j'ai vu les étudiants, je suis allée à la rencontre de beaucoup d'étudiants d'université, ces étudiants qui avaient le petit job alimentaire, ils aidaient à tenir un peu debout la famille, puis eux-mêmes, ils faisaient leurs études, et ils étaient là entre les, vous savez, tous les Deliveroo, tout ce qu'on voit, entre les McDo, tous ces petits jobs que moi-même j'ai pu faire. Moi, je travaillais de nuit, je travaillais de jour, moi, je travaillais à plein temps depuis l'âge de 14 ans. Donc, je sais ce que ça veut dire. On disait, non mais on ne va pas effectivement les aider parce que on les emmène vers le travail. Mais il n'y a pas de travail puisque nous sommes dans cette crise sanitaire. Et moi j'ai considéré que les étudiants des universités, c'était les gilets jaunes de l'enseignement supérieur. On a moins entendu parler des grandes écoles qui étaient plus préservées, notamment dans la reprise des cours, dans l'encadrement, dans effectivement le suivi des cours. Les étudiants ont été abandonnés à ce moment-là. Donc les inégalités se sont aggravées.
Mais il y en a toujours eu des inégalités. Là, oui. Elle dit on humilie, ça veut dire qu'on appuie sur la tête.
Moi, je trouve qu'il y a des situations où...
C'est vrai ou c'est excessif,
non,
ça
moi, ce que je veux dire, vous le dites vous-même, je vais pas commenter les propos de Madame Taubira. Ce que je veux dire, c'est que cette crise sanitaire, elle a révélé le fond et le tréfond des inégalités en France. Elle les a aggravées. Ce que je regrette, c'est qu'une partie de ce gouvernement, finalement, moi, quand j'entends Madame de Montchalin ou d'autres qui ont été finalement... qui ont toujours bien vécu... Alors, faut pas avoir mal vécu pour comprendre la douleur ou la détresse.
Là, vous faites de la
politique, là. Non. Parce que certains disent, oui, mais ça va passer, il faut attendre, et ça va être... Mais il y a des gens qui sont déjà morts. Le temps que vous lui disiez, tu vas attendre, il est déjà mort, le gars. Donc, ces inégalités-là, franchement, y compris dans le plan de relance, je pense qu'on n'en a pas tenu compte. Et les premières victimes des inégalités, je vais vous dire, les jeunes et les femmes. Systématiquement. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut creuser. Je sais qu'on va nous dire l'économie repart, les indicateurs sont au vert, c'est formidable. Mais pour moi, la France, c'est pas un marché économique. La France, c'est plus que ça. Et si je suis à votre micro aujourd'hui, c'est parce que la France, c'est beaucoup plus que ça.
La France, c'est beaucoup plus que ça, dites-vous. En septembre 2020, vous avez donné une interview au Times. Vous avez dit, forcément, arrive un moment où vous vous dites, surtout quand vous voyez l'état du pays, cette bataille, je pourrais peut-être la mener. Cette bataille, vous parliez de la présidentielle. Pourquoi vous avez renoncé?
C'est pas... D'abord, cette interview, effectivement, j'avais dit, il m'avait dit, et finalement, la présidentielle, pourquoi pas. Il m'avait dit, où est-ce que vous pourriez vous voir en 2022? J'avais dit l'Élysée, mais moi je pensais à ma famille politique. Bien sûr que quand je vois le nombre de candidatures, je pourrais vous dire pourquoi pas moi. Mais quand je vous dis que la France c'est plus que ça, l'élection présidentielle pour moi c'est une élection sacrée. Et cette élection sacrée, on l'a désacralisée, ça devient un casting. Donc on se teste, on veut exister. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la classe politique devient finalement comme les influenceurs ou de la télé-réalité. Voilà, on va se montrer. Vous savez, dans la télé-réalité...
Et si vous voulez changer ça, pourquoi ne pas y aller? Vous n'avez pas peur de regretter votre choix?
Non, parce que c'est pas de ne pas y aller. Qui vous dit que je n'irai pas? Moi, je serai dans du combat de la présidentielle. Mais moi, j'ai beaucoup trop de respect pour la fonction présidentielle. Donc, si j'y vais, faut dire, ok, je vais à la présidentielle parce que je veux être président de la République. C'est pas, je vais à la présidentielle pour voir.
Là, aujourd'hui, vous le voulez pas. C'est pas votre. Non. Vous dites pas en 2022, non. Je veux être présidente de la République.
Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de choix politique de notre candidat dans notre famille politique. Mais vous savez où ça va s'accélérer? À la fin de l'année. Parce que il nous faudra un candidat, il faudra porter des idées, il faudra porter une ligne politique, une vision pour notre pays. Mmh. Moi, je veux que la France soit la France. Et effectivement, s'il manque quelque chose...
J'ai l'impression que vous n'êtes pas clair, que vous n'avez pas complètement mis une croix là-dessus. Je me
trompe
ou pas ? Bien
sûr, parce que moi, je trouve que...
Vous avez mis une croix sur 2022 ou pas ?
Non, je n'ai pas mis une croix. Pourquoi je n'ai pas mis une croix ? Parce que aujourd'hui, tous les débats, moi, je trouve que soit clivent, soit restreignent. La France, ça rassemble. Bien au contraire. Et ça s'élargit.
Rachida Dati, est-ce que votre décision de ne pas y aller pour l'instant, en tout cas, est liée à votre mise en examen pour corruption passive et recel d'abus de pouvoir dans l'enquête sur des prestations de conseil auprès du patron du groupe Renault-Nissan, ou est-ce que ça n'a rien à voir?
Alors, je vais vous dire, je vais en parler très librement. Et d'ailleurs, j'en ai toujours parlé très librement. Dans cette affaire, il n'y a pas de détournement d'argent public. Il n'y a pas.
Question de faire le procès.
Non, pas du tout.
Ou
c'est pas, c'est juste... Je suis très à l'aise. Est-ce que je vous dis, est-ce que c'est une surréaction la manière dont je vous réponds? Je vous dis, il n'y a pas d'argent public en jeu. Il n'y a pas de plainte, pas de plaignant, pas de victime. Quelle est la question dans cette affaire? C'est de dire que j'ai été avocate pour Renault-Nissan, mais on dit, est-ce que vous avez été vraiment avocate? Donc la question, elle est là. Est-ce que dans cette affaire, Monsieur Soto, j'ai demandé des faveurs sexuelles à quelqu'un pour attribuer un logement? Non. Est-ce que je me suis attaquée à des mineurs? Non. Est-ce que j'ai agressé quelqu'un? Non. Est-ce que j'ai utilisé ma fonction ou ma responsabilité politique à des fins personnelles?
Mais moi, ma question, elle est beaucoup plus simple, c'est est-ce que cette mise en examen est un frein aujourd'hui dans votre parcours politique?
Non, pas du tout. Je vais vous dire, il y a un parcours judiciaire qui est en cours. Il y a d'ailleurs un débat juridique sur le fond concernant ce dossier qui est en train d'être tranché. Moi, vous savez, je suis très tranquille. Parce que, vous savez...
Mais vous dites, il faut l'ancienne garde des Sceaux que vous êtes se dit, c'est bien que la justice fasse son travail et qu'à la fin, puisque c'est votre conviction, elle me blanchira? Ou est-ce que vous dites, là quand même, il y a de l'acharnement?
Est-ce que j'ai été condamnée?
Non, pas du tout, vous êtes mise en examen, c'est
donc,
ce que...
Donc
présumé innocent, comme tous les mises en examen
donc la
de France.
Question n'est pas de me blanchir ou pas. Est-ce que j'ai été condamnée? Non. Est-ce qu'il y a une mise en cause
de ma
probité politique? Non. Moi, je vais vous dire, vous savez, dans la justice, on parle, tout le monde veut réformer la justice. Je l'ai réformée, et je l'ai réformée avec beaucoup de résistance. Mais je l'ai fait, je suis allée jusqu'au bout des réformes que j'ai pu mener. Mais moi, je pense que la transparence qu'on exige des femmes et des hommes politiques, on peut l'avoir aussi vis-à-vis de la justice. Par exemple, moi, j'aimerais qu'on puisse aussi filmer les interrogatoires dans les cabinets de juge d'instruction pour voir comment sont considérés les droits de la défense, comment sont aussi préservés et défendus les victimes, comment sont interrogés.
Vous considérez que
vos
droits sont mal considérés là, par exemple dans l'affaire qui vous concerne?
Moi, j'exerce mes droits de la défense, ce qui est normal. Je m'en expliquerai tout à fait prochainement, mais moi je suis très tranquille, je ne suis pas du tout perturbée par cela.
Est-ce que la politique rend un peu parano?
C'est pas la politique qui vous rend parano, c'est cette exposition publique où vous dites, parfois vous avez des gens qui vous attaquent, vous savez pas pourquoi, vous dites tiens c'est bizarre, mais pourquoi il dit ça? Et puis vous avez de la manœuvre, la plainte qui est à l'origine de cette affaire qui a été classée. Cette plainte a été classée, mais le parquet financier a dit quand même on enquête. Comme dirait l'autre, on va peut-être trouver quelque chose. Mais la plainte a été classée. La plainte, elle émanait d'un avocat qui est ouvertement raciste, et qui assumait d'être raciste. Cette plainte a été classée.
Rachida Dati, vous avez choisi un disque, c'est la règle dans Hors Piste. Et en l'occurrence, c'est Le Beyrouth de la chanteuse libanaise Fayrouz.
Le Beyrouth Min qalbi salamun le Beyrouth Wa qubalun lil bahr wal buyout لصخرة كأ
Beyrouth, on prononce comme ça, c'est
oui.
ça de la chanteuse libanaise Fayrouz, chanteuse engagée. Pourquoi ce choix? Elle vous raconte quoi, vous, cette chanson, Rachida Dati?
Cette langue arabe, la langue arabe littéraire, c'est la poésie arabe, c'est une langue de l'amour et de la poésie. Tous les connaisseurs de cette langue vous diront que c'est la plus belle langue pour exprimer des sentiments, une sensibilité, des métaphores, elle est très subtile. Et
je vous ai regardé pendant la chanson et vous êtes parti loin, vous étiez ailleurs.
Parce que ce sont des chansons qui vous emportent loin. D'abord, c'est une femme engagée politiquement. Et c'est un hymne au Liban, à Beyrouth, mais ça va bien au-delà. C'est un hymne à un pays qu'on aime, à ses racines. Et cette chanson me rappelle... mon père aimait beaucoup Fayrouz, Oum Kalsoum, tant de chanteuses arabes, et qui ont été dans les années 50, 60, qui ont forgé aussi, qui ont accompagné des combats politiques, et qui sont loin d'être ceux d'aujourd'hui, de ce monde arabe qui était, j'allais dire, encore civilisé.
Et, il ne l'est plus?
Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça s'est beaucoup dégradé. Ça s'est tellement dégradé que les gens ont oublié tout cela. Et moi, j'invite justement vos auditeurs à aller voir l'exposition qu'a l'Institut du Monde Arabe, oui. Les Divas du Monde Arabe. Cette exposition est magnifique et ça aussi, ça donnera une autre dimension, une autre vision de ce qui est la réalité du monde arabe, la réalité de ces femmes et du combat de ces femmes. Moi, ce sont des chansons qui ont accompagné mes parents quand ils sont arrivés en France. Et puis, c'est la langue de la poésie et de l'amour. Et la poésie de l'amour, y compris dans des combats politiques.
De vos racines, vous parlez assez librement, Rachida Dati. Mais il y a un sujet que vous n'abordez pas ou peu, c'est votre religion. Vous êtes musulmane ?
J'ai la foi. J'ai effectivement jamais voulu m'exprimer sur ma confession.
Pourquoi ?
Parce que je considère que ça relève de l'intime. J'ai la foi, oui. Et j'ai été élevée par mes parents musulmans. Je suis très croyante. Et j'ai toujours considéré que, pour ne gêner personne, tout ce qui relève de l'intimité peut gêner parfois. Et j'ai été magistrat et c'est pour ça...
Mais en même temps, vous vous affichez quand vous allez à l'église le dimanche matin dans
le
7e.
Oui, mais parce que, je vais vous dire, oui, j'ai la foi, mes parents sont enterrés dans un cimetière musulman, j'ai souhaité qu'ils soient enterrés au Maroc. Ce pays auquel je suis tellement attachée, comme d'ailleurs maman est algérienne, mon père est marocain, et sur les paroisses, parce que j'ai été scolarisée et ça a été la volonté de mes parents, puisque justement pour essayer de contourner ces écoles qui devenaient ghettos, les écoles publiques, et qui devenaient des écoles de niveau social. Et on a été scolarisés dans une école où mon père faisait des travaux, qui était un institut de jeunes filles catholiques. Et avec mes sœurs, on a été scolarisés dans cette école. Et ça nous a permis de ne jamais vivre la foi comme un handicap.
Et vous n'avez pas une ouverture l'islam sur l'autre. Honteux, Rachida Dati ?
Je n'ai pas l'islam honteux, pas du tout. Mais je considère que ça relève de mon intimité. Comme ça, ça ne gêne personne. Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, quand vous dites, si vous dites que vous êtes musulman, il y a des gens qui disent « Ah bon, ça se voit pas. Ah bon ?» On a tellement dévoyé cette religion que moi, je ne veux pas faire offense à mes parents qui me l'ont enseigné tellement différemment et de manière tellement ouverte. Ce qui me permet, effectivement, de pouvoir aller dans toutes les paroisses, dans tous les temples que j'ai dans mon arrondissement. Je suis allée dans plusieurs synagogues à l'occasion de Kippour. Voilà l'enseignement de l'islam que j'ai eu de mes parents. Et c'est cette manière-là, cette manière ouverte, et cette manière justement que la foi, c'est la communion, c'est pas la division, c'est pas le rejet de l'autre.
Alors Rachida Dati, quand on vous reçoit, les gens vous disent « Oh là là, tu vas pas t'ennuyer ». Rachida Dati, ce sont aussi des formules choc et un sens de la répartie qui souvent fait mouche. Donc, on va se faire un petit peu plaisir.
En Marche, c'est quoi ? C'est des traites de gauche, des traites de droite.
Il y a certains endroits où, franchement, je cours sur les voies sur berge, je passe en apnée. Hein. Sur certains tronçons, ce sont des latrines à ciel ouvert. Et quand on fait du vélo, puisque vous dites qu'il faut des cheminements longs, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Comment on fait quand on arrive au bout de la rue de Rivoli ? Comment on fait quand on arrive boulevard Magenta ? Franchement, vous pouvez finir au Père Lachaise. Hein.
Tous ces médias qui ont payé à prix d'or les sondages, il faut vous faire rembourser. Hein. Ça renflouera les caisses de France Inter. Hein. Darmanin. Monsieur Dupond-Moretti, allez, à la trappe. Tout le monde, allez, circulez, il n'y a plus rien à voir.
Il y a un côté ludique dans tout ça, je trouve que ça vous plaît, non ? Le sens de la formule, vous les préparez ou pas vos formules avant d'arriver sur un plateau ?
Non, franchement, non. Et puis d'ailleurs, vos journalistes le voient, je ne viens pas... Non, et c'est vrai que... moi, je trouve, par exemple, je n'aime pas faire des points presse. Je trouve que ça fait très Madame Météo, bonjour, voilà, on va faire ça, c'est formidable et tout. Je préfère le débat, je préfère l'échange. C'est comme moi, je suis pas très bonne, les gens qui se filment sur une vidéo, qui disent des choses. D'ailleurs, vous le trouverez rarement, je n'aime pas ça, ça n'est pas moi. Voilà. Et moi, je me souviens quand je suis devenue porte-parole de Nicolas Sarkozy, même Claudia m'a dit, mais il faudrait faire un petit peu de média training, parce que moi, à part prendre la parole au tribunal pour prendre des réquisitions contre des prévenus, c'est la seule expression publique que j'ai pu avoir. Et donc, j'ai essayé, je me suis dit, tiens, je vais essayer de parler comme ça, bien, bonjour, au revoir, sujet vers complément. Ah, mais c'est chasser le naturel, il revient au galop. Donc, j'ai dit, bon, allez, lâche l'affaire. Voilà, donc, j'y vais en normal. Puis, c'est bien, parfois, ça, je peux rester très... Puis, à un moment donné, le type ou la femme qui est en face, non, mais ils disent n'importe quoi, là, oui. Et ça devient n'importe quoi. Là. Je dis, non, voilà, à un moment donné, il faut être direct et dire les choses.
Voilà. Et parfois, vous cognez fort, très fort. Est-ce que c'est vrai que, par exemple, vous avez déjà envoyé des textos à votre meilleur ennemi, Anne Hidalgo, pour lui dire, en sortant d'une interview, pardon, j'ai cogné un peu fort ? Vous avez déjà fait ça ou pas ?
Non, parce que le... Non, je crois pas. Ou alors, j'ai peut-être dû lui dire comme ça. Moi, je suis pas... Enfin, j'ai pas l'interview honteuse. Non. Ouais.
Et vous avez la réputation aussi d'avoir la dent dure, d'avoir aucun état d'âme. C'est vrai, ça, ou pas ?
Non, mais je vais vous dire. Je vois sur des réunions politiques, on vous dit, ah tiens... Rachida, tu peux venir faire campagne pour nous. Les gens, ils veulent que tu viennes. Ah, ok. Ah, tu viens parce que toi, tu vas remplir la salle. Ok, je viens. Oui, tiens, tu peux. Puis le jour où je dis, excusez-moi, est-ce que on pourrait avoir droit Est-ce que les gens disent, ah non, c'est pas pour toi. Je dis, mais attendez, moi, je suis pas uniquement le produit d'appel. Je suis pas la tête de gondole. Et quand on est sur le fond, c'est pour les autres. Donc, c'est pas que j'ai la dent dure. C'est que je leur dis les choses en direct. Voilà. Mmh. Je leur dis, quand les gens essaient de le voyer, je dis non, mais attends, c'est pas la peine de me la faire à l'envers. Moi, je vais te la faire très à l'endroit. Voilà. Et si je la fais à l'endroit, je la fais très directement. Donc, c'est vrai que certains, ça dérange certains. Voilà.
Ça vous plaît de pas laisser indifférent?
C'est pas, non, parce que des fois je regrette, je me dis, oh, tiens, mince, j'aurais pas dû peut-être dire comme ça, tout directement. Des fois je regrette, hein. Mais je me dis, c'est dit, c'est fait, voilà.
Vous avez des doutes? Vous doutez ou pas?
Ah, moi, je suis quelqu'un qui n'a, j'ai jamais eu de certitude. Sur rien, jamais. Et ça, tant mieux. C'est ce qui me permet de continuer mes combats.
Et vous les cachez, vos doutes, quand même?
Non, mais je m'interroge. Des fois, je me dis... Même des fois, je me dis, tiens, c'est ce qu'il faut faire. Puis après, je regarde quand même. Je consulte. Je me dis, attends, est-ce que je suis vraiment sûre? Non, j'ai pas de certitude. Et c'est ce qui me permet de faire de la politique. C'est pour ça que les gens disent, ah là là... Moi, je me souviens, mes ennemis, en disant, tiens, on va la battre ici. Tiens, on va la toucher comme ça. Tiens, on va... Mais ils ont pas compris où étaient mes ressorts. Moi, vous pouvez toucher tout ce que vous voulez. Et je sais ce qui peut m'abattre. Et je sais ce qui me permet de rester debout. Donc voilà, donc il
qu'est-ce
touche toujours.
Qu'est-ce qui peut vous abattre?
Je vais quand même pas vous le dire, mais il tape toujours à côté.
Qu'est-ce qui peut voilà. vous abattre?
En tout cas, moi, je résiste et je suis là.
Ah. Qu'est-ce qui peut vous abattre, Rachida Dati?
Moi, je veux pas qu'on touche à ceux que j'aime, ça c'est sûr. Voilà. Moi, ce qui m'a, à un moment donné, où j'ai été très déstabilisée, très dévastée, c'est quand j'ai vu les effets sur ma fille, et puis quand mon père est tombé gravement malade. Là, vous vous interrogez.
On arrive presque au bout de ce numéro de Hors-Piste. Comme chaque invité, je vous ai demandé d'apporter un objet. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté?
J'ai apporté un flacon de Chalimar.
De parfum, donc?
Oui, qui était le parfum de maman. Et quand elle est décédée, j'étais avec elle. Et il y a un foulard que j'ai gardé et qui a encore ce parfum. Donc voilà, donc ce parfum qui est partout chez moi.
Et celui que vous portez?
Je ne le porte pas parce que je vais vous dire, par exemple, j'arrive à voir les photos de maman. Je n'arrive pas à voir, par exemple, des films ou des vidéos, maman, où je la vois bouger. Mais son odeur, chez moi, c'est comme un petit peu de réconfort. Voilà.
Merci beaucoup, Rachida Dati, d'être
merci,
venue
Thomas
faire
Soto.
Une heure de Hors-Piste avec nous. Merci également à Marie Merrier à la réalisation, Claire Tesser à la mémoire vive, Charlotte Leloup à la préparation et Rémi Sistiaga aux manettes. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h avec Éric Dupond-Moretti. Vous avez un message ou pas pour votre lointain successeur, Place Vendôme?
Ben, je l'ai connu, vous savez comment je l'ai connu? J'étais magistrat en cour d'assises à Amiens et il était avocat dans une affaire en face. Et quand je suis devenue garde des Sceaux, je lui avais proposé une mission et il avait refusé. Mais on a une trame de fond en commun, qui est notre parcours d'origine.
Du respect, de l'affection?
Moi j'ai du respect pour lui, et il le sait.
Enfin. Dans Hors-Piste, le dernier mot revient toujours, toujours à l'invité. À vous donc, Rachida Dati.
J'ai aimé faire cette émission qui a un ton de confiance, qui a un ton de vie, et la vraie vie, celle qui inclut de l'empathie, de la sensibilité, et aussi l'écoute de l'autre. On s'est écouté, je vous ai écouté, je vous ai répondu, j'ai pas eu peur, je me suis pas sentie ni en difficulté au sens quelle est la question qui risque de me déstabiliser. J'ai voilà, ce genre d'émission et le ton de ces émissions vous réconcilie aussi avec la politique.
Merci.
Merci.